Charles Studd était un Anglais qui a vécu de 1860 à 1931. Il s'affiche à l'image. Il était champion du monde de cricket, sport national en Angleterre, jusqu'à ce qu'un jour, il décide de prendre une grande décision dans sa vie. Et voilà, avec le recul, ce qu'il dit de lui. « Dieu m'a appelé à aller en Chine et j'y suis allé en dépit de l'opposition la plus absolue de tous ceux que j'aimais. J'ai joyeusement fait ce que Christ avait dit au jeune homme riche de faire. » En 1910, à l'appel de Dieu, j'ai de propos délibérés, un jour où j'étais tout seul sur le bateau, fait don de ma vie à cette œuvre-ci. Et cette dernière s'est révélée par la suite destinée à atteindre non seulement le Soudan, mais la totalité du monde, encore non évangélisé. Mes seules joies en conséquence viennent de ce que, lorsque Dieu m'a donné un travail à faire, je ne l'ai pas refusé. Alors, peut-être que cette histoire peut en surprendre certains. Peut-être qu'on peut se dire que tout abandonner, ça concerne une minorité de personnes un peu folles dans leur tête, qui ne se plaisaient pas nécessairement dans ce qu'elles faisaient. Mais en réalité, il faut avoir un certain équilibre dans sa vie et dans sa foi pour avancer de cette façon. Et ça, c'est un très bel exemple, l'exemple de Charles Studd pour nos vies. Alors, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série de messages sur les paraboles de Jésus dans les évangiles. Manu l'a commencé la semaine dernière, je continue dans cette lancée et ça va durer tout cet été à l'église. Je vous invite à lire ce court passage ce matin qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, versets 44 à 46. Donc Matthieu 13, 44 à 46. Le royaume des cieux ressemble encore à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Fin de la lecture. Alors, notre passage aujourd'hui évoque deux courtes paraboles avec des similitudes et une différence principale entre elles. Qu'est-ce qui caractérise ces deux découvertes? À quoi font référence le trésor et la perle? Qu'est-ce que tout cela engage pour nos vies, concrètement? On va voir que le gain de l'éternité nous fait renoncer à l'éphémère. Et on verra dans un premier point, les caractéristiques de ces découvertes, et dans un second point, les implications de ces découvertes. Je vais parler premièrement des caractéristiques de ces découvertes. Alors, deux paraboles et deux découvertes différentes, a priori. D'une part, le trésor. Il est découvert sans que le texte nous mentionne de recherche spécifique de la part de celui qui était en train de creuser dans ce champ, de cet homme. Et d'autre part, la découverte de la perle, elle fait suite à une recherche de la part du marchand de perles. Par ces paraboles, Jésus, il avait l'intention précise de donner un peu plus d'éléments à la foule et à ses disciples qui étaient en train de l'écouter devant lui sur la signification du royaume, la signification du royaume des cieux. Et il utilisait justement ces images pour que ses auditeurs puissent mieux saisir son sens. Je vous propose de commencer plus en détail, par regarder ce que le trésor signifie, le trésor caché. La première partie sur laquelle le lecteur est invité à s'arrêter, c'est celle du trésor avant celle de la perle. Alors, qu'est-ce qu'on sait exactement sur ce trésor? À quoi il fait référence? On peut lire premièrement que le royaume des cieux ressemble à un trésor caché. Donc, le trésor est associé au royaume des cieux. Mais concrètement, qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là? Est-ce que les personnes qui l'écoutaient avaient clairement saisi le fond de sa pensée? Contrairement à beaucoup de paraboles dans les évangiles, et des paraboles qui précèdent juste ces deux-là, Jésus n'a pas expliqué le sens de ces deux petites paraboles. Alors, arrivé ici, je me pose deux questions. Pourquoi un trésor? Et pourquoi cacher? Le trésor, c'est évidemment ce vers quoi l'homme est naturellement attiré. Ça représente un prix élevé, quelque chose de précieux. Ça peut également être transmis directement par héritage, un trésor. Certainement, beaucoup d'entre nous ont déjà rêvé de découvrir un trésor quelque part. Bref, les caractéristiques du trésor sont nombreuses et intéressantes pour qu'on comprenne mieux son utilisation par Jésus. Et maintenant, caché. Jésus parle d'un trésor qui est caché. Et le fait qu'il soit caché, c'est pas anodin. Mais ça nous pose quelques questions quand même. Est-ce que ce trésor avait pour objectif de ne pas être découvert s'il était caché? Est-ce qu'il était difficile à trouver, à obtenir? Quelle est la vraie signification du trésor? Premièrement, si le trésor est caché, ce n'est pas qu'il ne devait pas être découvert. C'est pas ça. Le trésor, il a d'ailleurs fini par être découvert, donc ça veut dire qu'il n'était pas caché pour définitivement. Si le trésor représente la vie éternelle, on met une hypothèse déjà, si ça représente la vie éternelle, cette image montre plutôt la façon dont beaucoup l'ont reçu. Une découverte précieuse. Je vous ai donné un petit indice à l'instant. J'ai dit si, il représente la vie éternelle. On va voir dans la suite ce qu'il représente. Pour d'autres, malheureusement, pour d'autres personnes dans leur vie, elles passeront à côté de cette vie éternelle, de ce trésor. Je vais citer le pasteur John MacArthur, qui a écrit ces mots assez cash, mais qui sont pourtant vrais. Il dit « Les perdus n'y ont pas leur part. Ils récoltent la conséquence naturelle de leur incrédulité et de leur rébellion, l'aveuglement spirituel. » Il résume certainement que ceux qui passent à côté de la grâce qu'il leur est faite de saisir ce trésor n'auront pas leur part. La part du trésor, c'est-à-dire la vie éternelle. Ça, c'est ce que dit John MacArthur. Il commente le verset 11 du chapitre 13. C'est un verset plus tôt. En combinant toutes ces caractéristiques, on réalise que Dieu veut révéler aux hommes ce qu'il a de plus précieux et leur offrir le don de cette vie éternelle. Je suis obligé de faire une précision ici sur ce que représente le royaume des cieux. Vous posez peut-être cette question. Le royaume des cieux, c'est aussi le royaume de Dieu dans les autres évangiles. Il est appelé le royaume des cieux dans l'évangile de Matthieu, en particulier, mais c'est exactement la même chose. C'est un thème qui revient à de multiples reprises dans la Bible. C'est d'ailleurs au cœur de l'enseignement de Jésus. Ce royaume, c'est le règne éternel à venir de Dieu. Et l'Église, c'est-à-dire le rassemblement de tous les croyants, l'Église fait partie de ce royaume. Elle n'est pas en tant que telle le royaume, mais elle y prend part. Enfin, ce royaume, il est à venir et nous sommes appelés à prier pour que son règne vienne. C'est ce que Matthieu décrit dans la prière du Notre Père qu'on connaît et que Jésus enseigne à prier pour que son règne vienne. On va se pencher maintenant sur les détails de la perle un peu plus. L'autre parabole qui nous est rapportée, c'est cette fameuse parabole de la perle, très courte aussi. Et à la différence du trésor caché qu'on vient de voir, ici le marchand était spécifiquement à la recherche de cette perle. Cela peut nous montrer qu'il y a plusieurs façons d'arriver à trouver le royaume des cieux. Certains sont à la recherche spécifique, comme ce marchand de perles, d'autres n'y étaient pas spécialement, comme celui qui creusait dans ce champ. Car l'important, ce n'est pas tant le chemin qu'on a pris, mais l'arrivée en elle-même. Certains ont reçu l'évangile dans les tout derniers moments de leur vie, car ils l'ont entendu et accepté à ce moment. D'autres ont passé des années à essayer de chercher Dieu. On pourrait nous-mêmes se retrouver dans l'une ou l'autre de ces situations. Et on revient au constat que rien ne peut faire obstacle à la souveraineté de Dieu. Si Dieu veut qu'on le connaisse un jour, alors celui qui le cherchait arrêtera de le chercher, car il aura trouvé la perle, et celui qui ne le cherchait pas spécialement tombera peut-être nez à nez sur ce trésor. Dans tous les cas, c'est la grâce qui fait que nous pouvons être sauvés. Je rappelle ce verset que l'apôtre Paul nous redit dans la lettre aux Éphésiens. Il dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. On ne sait pas du tout le contexte ni l'identité de l'homme qui creusait dans ce champ. On ne sait pas pourquoi il travaille dans ce champ qui n'est pas à lui. Qu'est-ce qu'il fait ici, en fait ? On ne sait pas. On pourrait se poser un tas de questions, de circonstances, mais je crois que le centre des propos de Jésus, ce n'est pas là. Il ne nous demande pas de comprendre les circonstances de cette parabole, mais plutôt ce qu'elle signifie et ce qu'elle implique. Un des accents principaux de notre première parabole, ça se trouve sur la joie de cet homme. Quand on lit ce texte, quand il découvre le trésor, le premier sentiment qui va l'habiter, c'est une joie. Autrement dit, la vie éternelle, la découverte de la vie éternelle remplit de joie cet homme. Et c'est certainement l'une des caractéristiques fortes de cette découverte dans nos propres vies. Ça ne sera pas simplement une joie du moment, une joie éphémère, passagère, superficielle, mais ça sera une joie en toile de fond dans nos vies. On vivra des épreuves, des combats, des luttes, c'est une réalité et la Bible en parle. Mais la joie qui était présente lorsque nous avons reçu la vie éternelle sera toujours présente. Et ça, c'est l'un des fruits que l'Esprit nous donne et qu'il cultive en nous. Et on en parle ça dans le verset 22 du chapitre 5 de Galates, Galates 5, 22. C'est vraiment un fruit de l'Esprit. Comment notre joie se manifeste-t-elle au quotidien lorsque nous sommes chrétiens ? Pour les jeunes chrétiens dans la foi, comment entretenez-vous cette joie immense que vous avez eue lorsque vous vous êtes tourné vers Christ ? Même question pour les chrétiens qui sont plus mûrs dans leur foi. Comment on entretient cette joie ? C'est une question. J'apporte pas nécessairement de réponse là. L'une des choses notables de ce texte, c'est de réaliser d'où provient la motivation de cet homme. Elle provient de sa joie. Si l'homme veut aller vendre tout ce qu'il possède, c'est parce qu'il a compris que tout était déjà accompli et que le royaume des cieux était également pour lui. C'est ça la signification du trésor révélé. L'une des premières choses que cette histoire nous apprend, c'est que le gain de l'éternité nous comble d'une joie profonde qui nous fait renoncer à tout ce qui est terrestre et éphémère. Et ça nous amène à parler de notre second point, qui va être les implications de cette découverte. On va voir que cette découverte engage l'individu, que ce soit sur Terre, mais aussi pour l'éternité. Ce qui est commun à ces deux histoires, c'est bien le fait que chacun est allé vendre ce qu'il possédait pour saisir pleinement ce qui était de grande valeur devant lui. L'une des remarques que faisait un commentateur sur ce texte était de dire que si le trésor caché était le salut en Jésus et que je suis l'homme qui le trouve, je suis alors capable d'acheter ce qui contribue à mon salut et je peux me sauver par la vente de ce que je possède. Et en effet, cela nous pose un problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué le problème. Ça irait à l'encontre du message global de la Bible qui nous rappelle que le salut est un don de Dieu, comme nous venons de le relire juste avant dans Éphésiens. Rien ne nous dit d'ailleurs que dans ces deux paraboles, ces deux hommes sont allés vendre ce qu'ils avaient pour avoir suffisamment d'argent pour acheter ce qu'ils ont trouvé. Ce n'est pas ce que les paraboles enseignent. En creusant davantage sur ce sujet, on sera éclairé par un autre passage de la Bible, et c'est encore Jésus qui répond à un homme qui lui demandait comment hériter de la vie éternelle. Je lis en Marc 10, 21. L'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Alors pourquoi Jésus veut inciter tout le monde à aller mettre toute sa vie sur le bon coin ? De ce qu'il affirme dans ces deux textes, ce n'est pas pour réunir une somme d'argent suffisante que nous sommes appelés à vendre ce qu'on possède. La personne à qui il a dit d'aller vendre tout ce qu'il avait était riche. On est plutôt appelé à considérer que la grâce qui nous est offerte est infiniment plus précieuse que toutes nos attaches sur terre. Alors, il est clair que c'est une décision qui engage et qui nous coûte à tous. posséder et se satisfaire de ses possessions sur terre nous empêche de comprendre quel est le trésor qui nous est promis. Ce fameux trésor au ciel dont Jésus parlait dans le verset qu'on vient de lire. Si on fait le parallèle avec la recommandation de Jésus, on peut se rendre compte que plus nous possédons de choses, plus il est difficile de s'attacher à Christ. La possession, ça peut se retrouver dans plein de domaines de nos vies. En premier, on peut penser au matériel, c'est juste. Il y a une certaine confiance dans les richesses matérielles, on y retrouve du plaisir. Mais cet appel à vendre tout ce qu'on possède englobe, je crois, plus largement tout ce qui nous empêcherait de mesurer à quel point le royaume des cieux est précieux pour notre vie. Et tout ce que nous devons laisser pour avancer et suivre Christ. Et ça, ça nous invite à nous positionner dès maintenant face à ce que Jésus enseigne. Et maintenant, on va parler de ce que nous abandonnons. C'est pas seulement sur terre, c'est pour l'éternité. Cette découverte, elle est engageante sur terre, c'est vrai, mais elle représente un vrai bénéfice pour l'éternité. C'est exactement le centre de notre texte. Je crois fortement que dans ces deux histoires, ces deux hommes ont bien compris ce qu'ils possédaient jusque-là. Ils ont bien compris que tout ça, ça représentait rien par rapport à ce qu'ils ont découvert, la perle et le trésor. Ils ont compris que ce cadeau que Dieu leur avait fait avait une valeur bien trop élevée et ne pouvait, quoi qu'il arrive, ils ne pouvaient pas se le payer. Il nous a offert l'éternité et bien trop souvent, on continue de vivre en pensant à nos propres intérêts. On continue, en quelque sorte, de mépriser son sacrifice. Mais ça nous concerne tous. Personne ne peut dire « Non, moi, j'arrive à vivre bien, tranquillement, je n'ai pas ce problème-là. » On est tous concernés par ça. Alors, quelle mise en pratique on peut faire de ce que nous avons vu jusque-là? Qu'est-ce qu'on apprend sur la personne de Dieu? Et comment on peut répondre à cet appel? Un premier élément central, c'est le fait que Dieu fait ce qu'il veut. La première chose qu'on apprend. Il est pleinement souverain et il décide de la façon dont il se fait connaître à chacun. Certains seront à la recherche spécifique, d'autres pas spécialement. Ça nous dépasse, mais c'est la définition même de la grâce. Le salut, c'est un don de Dieu. Une deuxième chose, c'est de voir que la joie de nous savoir rachetés, c'est la plus grande motivation qui soit dans nos vies pour abandonner notre vie marquée par la désobéissance à Dieu. C'est cette motivation de la joie qui va nous permettre d'abandonner notre vie passée, notre vie peut-être tout ce que nous aimerions abandonner à Christ, nos péchés, nos manquements, notre désobéissance. C'est exactement cette motivation-là, la joie, qui va permettre ça. Si on n'a pas compris et si on n'a pas reçu ce trésor, on ne peut pas abandonner par nos propres forces nos péchés. Le fait de gagner l'éternité va nous pousser à renoncer à ce qui est terrestre et à nous mettre à son service. Et la question, c'est où on en est avec le péché? Est-ce que ce péché nous empêche d'avancer? Est-ce qu'on continue de lutter ou on a abandonné déjà cette lutte, parce qu'on croyait que c'était trop dur pour nous et on n'en voyait pas les fruits. Où on en est avec le péché dans nos vies? Ce qui m'aide, moi, dans ma propre vie, dans ma lutte face au péché, c'est de regarder à ce qui m'a été offert, justement. Ce qui m'a été offert à la croix. Et régulièrement, sonder Dieu, demander à Dieu s'il y a des choses qui devraient changer. D'être dans une attitude, justement, de repentance. Et une dernière chose qu'on peut mettre en pratique, c'est de voir que ce renoncement, c'est bien pour une réalité supérieure à cette terre. C'est pas seulement pour cette terre. Oui, c'est vrai, renoncer à ces choses-là, ça va nous faire sûrement beaucoup de bien sur cette terre. Et je peux vraiment témoigner de ça. Mais c'est bien plus encore, c'est pour l'éternité. On peut avoir la certitude que ce à quoi nous renonçons sur cette terre aura toujours moins de valeur que ce que ce trésor contient. C'est même une valeur qui n'est pas comparable avec ce qui attend ceux qui ont placé leur foi en Christ. Alors, Pour conclure, peut-être que ce matin parmi nous, sûrement pour la plupart, ce trésor n'est plus caché, cette perle a été trouvée. La question maintenant, c'est de savoir comment on fait pour faire fructifier tout ça. Comment faire fructifier ce don de Dieu ? Peut-être qu'il y en a parmi nous chez qui ce trésor a été tout récemment révélé, ou même aujourd'hui, et c'est merveilleux. Chaque jour, de nouvelles personnes entendent ce message et renoncent à leur vie passée pour gagner cette vie nouvelle en Christ. Mais dans tous les cas, que vous soyez jeune ou plus mûr dans votre foi, sachez que vous avez la possibilité, après ce culte, justement, on parlait de prière, vous pouvez venir prier avec une personne qui sera devant. Ça sera de chaque côté, alors n'hésitez pas de profiter de ces deux personnes. Que ça soit un sujet de prière en particulier, que ça soit demander le pardon de vos fautes pour la première fois, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quel état vous êtes. Voilà, vous avez la possibilité de venir.